Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur la Turquie, à un an de la prochaine élection présidentielle qui marquera aussi le centenaire de la République turque. Ankara a fait des tentatives de médiation dans la guerre en Ukraine. Sa position géographique la place comme un acteur diplomatique et stratégique important, notamment avec le détroit du Bosphore qui permet le passage de la Méditerranée à la mer Noire. Acteur encore lorsque l'OTAN se penche comme récemment sur l'intégration de la Suède et de la Finlande et que la Turquie accepte finalement de ne pas opposer son veto à cette double adhésion moyennant de nombreuses et très fortes exigences, concessions qui lui ont été accordées, nous y reviendrons. Et puis plus récemment, cette demande de changement d'orthographe faite en janvier qui vient d'être approuvée par l'ONU, un lifting linguistique qui voit disparaître le nom de Turkey en anglais au profit de Turquie. La Turquie, un acteur stratégique qui entend peser, aidé par un Occident soucieux de lui permettre de renforcer sa place dans la famille transatlantique et de l'OTAN afin d'empêcher l'accroissement de sa coopération et sa dépendance à l'égard de la Russie dans les domaines énergétiques et sécuritaires. Regard sur la diplomatie turque avec nos invités, avec moi en studio Dorothée Schmid, directrice du programme Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier et d'un chapitre intitulé Ankara et la Russie, une intrigue qui met l'Occident sous pression, paru dans l'ouvrage dirigé par Isabelle Facon, Russie Turquie, un défi à l'Occident, point d'interrogation, aux éditions Passé Composé. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone depuis Toulon, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Et depuis Grenoble, Jean Marcoux, titulaire de la chaire Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Bonjour.
Bonjour.
Ankara a donc finalement levé son veto à l'intégration de la Suède et de la Finlande. D'importantes concessions ont été faites à la Turquie. Dans un mémorandum, Finlande et Suède reconnaissent que l'un des éléments clés de l'Alliance est la solidarité inébranlable et la coopération dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Les deux pays affirment surtout que le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est une organisation terroriste et s'engage à empêcher ses activités ainsi que celles de toutes les autres organisations terroristes et leurs extensions, citant notamment le parti de l'Union démocratique kurde en Syrie et leurs branches armées des YPG, alliés des Occidentaux contre l'organisation État islamique, toujours en Syrie. Ils s'engagent également à ne pas apporter de soutien au mouvement de Fethullah Gulen, considéré par Ankara comme l'instigateur du coup d'État de 2016. Quel regard portez-vous chacun sur cet accord trouvé donc dans le cadre de l'OTAN ? Pas de veto turc à l'examen de l'entrée de la Finlande et de la Suède au sein de l'organisation atlantique, Jean Marcoux ?
Eh bien, effectivement, cet accord a finalement surpris un petit peu parce que la Turquie avait mis la barre très haut en estimant qu'elle posait véritablement des conditions et tant que ces conditions ne seraient pas remplies, elle n'accepterait pas l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Elle avait même dit d'ailleurs qu'il ne fallait pas considérer le sommet de l'OTAN à Madrid comme une date butoir pour son acceptation. Certains membres avaient dit que cette acceptation serait extrêmement difficile à obtenir. Et finalement, on s'aperçoit qu'effectivement, le veto turc a été levé au terme d'un accord qui, malgré tout, est assez flou, dont il va falloir voir les applications dans les prochains jours. Bon, ça a déjà un peu commencé ces jours-ci, puisque la Turquie a réitéré des demandes d'extradition et que par ailleurs, la première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a condamné la pose dans une photo de députés de l'extrême-gauche suédoise avec des représentants kurdes et avec un drapeau du PKK. Donc il va y avoir dans les prochains jours pas mal d'évolutions qui vont montrer jusqu'à quel point les conditions qu'ont prises en compte la Suède et la Finlande sont souples, effectives ou non. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que derrière cet accord, il y a encore ce que la Turquie a pu obtenir des Occidentaux, en particulier les Américains. Bon, un des grands problèmes de la Turquie dans cette affaire et dans sa relation avec les Occidentaux, c'est le renouvellement de sa flotte aérienne, en tout cas l'amélioration ou maintien niveau de sa flotte aérienne. Et comme elle n'a pas pu, vous le savez, au terme de cette expulsion du programme de S-35 dû à son acquisition de missiles de défense aérienne russe S-400, oui. Elle a proposé d'acquérir des F-16. Mais on voit bien que la presse turque surveille là aussi l'effectivité peut-être de promesses qui ont été faites par les États-Unis, puisque le président américain a expliqué qu'il était d'accord pour livrer des R-16. Le problème, c'est le Congrès. Et le Congrès se montre très réticent, on l'a encore vu. Et la presse turque, en même temps qu'elle annonçait les vacances de l'Aïd el-Hadda, la fête du sacrifice, eh bien, parlait d'indigestion de F-16, remarquant que effectivement, ce deal sur les F-16 n'est effectivement toujours pas acquis.
On poursuivra, Jean reviendra, Jean-Marc Roux, sur la question américaine, effectivement. Dans un premier temps, peut-être, on va se poser, il y a là aussi il y a un volet syrien qui est évidemment à aborder dans cette émission. Je reviens sur ma question avec vous, Dorothée Schmid, et je poserai la même question à Pascal Hausser. Donc cet accord, le non-veto turc à l'OTAN pour l'intégration de la Suède et de la Finlande, votre commentaire à vous ?
Je pense qu'on peut le voir du côté de l'OTAN, du côté de la Turquie. Alors du côté de l'OTAN, on avait une organisation en crise qui est en train de retrouver de la pertinence avec l'offensive russe en Ukraine, avec ce rassemblement autour du leadership américain et cette volonté d'États européens qui ont une tradition de neutralité de rejoindre l'OTAN. Donc un moment historique pour l'OTAN, qui est une organisation où la Turquie avait la réputation d'être un partenaire extrêmement difficile, un membre difficile, quasi membre fondateur, c'est-à-dire qui a rejoint l'OTAN très tôt. Et qui finalement était dans des rapports de force internes très compliqués, notamment avec la France, où on sait qu'en 2020, on a eu en mer Égée quand même des moments, d'abord en Libye et en mer Égée, des moments de tension extrêmement fortes franco-turques, des difficultés avec la Grèce qui continuent, avec des problèmes de délimitation maritime. Donc vraiment une Turquie qui est considérée comme un membre difficile de l'OTAN, mais qui a très bien compris aujourd'hui qu'elle était absolument indispensable, notamment parce que la crise ukrainienne remet les projecteurs sur la mer Noire et que la Turquie va se retrouver face à la Russie en mer Noire. Ça va être les deux grandes puissances qui vont devoir cohabiter en mer Noire et l'OTAN a besoin aujourd'hui de comprendre de quel côté va se trouver la Turquie qui avait la réputation de coopérer assez bien avec la Russie sur beaucoup de théâtres. L'autre chose qui me frappe, c'est que les Turcs ont quand même depuis une dizaine d'années une capacité exceptionnelle à exposer sur la place publique les difficultés internes de l'OTAN. C'est-à-dire que là, moi, j'ai été assez bluffée par l'attention des médias, la façon dont cette réclamation turque sur le PKK, spécifiquement sur les Kurdes, avait eu un écho international absolument inédit. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ils ont vraiment trouvé le moyen de faire connaître leurs intérêts nationaux. Et c'est d'autant plus surprenant que on parle quand même d'une alliance militaire qui, en général, est une boîte noire et où, finalement, les difficultés politiques internes, elles sortent très peu. C'est une organisation qui fonctionne au consensus. Et les Turcs brisent ce consensus systématiquement, mais ils le disent.
En tout cas, effectivement, Erdogan a joué très finement là-dessus, parce que ce qu'on voit tout de même, c'est une politique du chantage menée par Ankara, qui est quasi permanente, et sur tous les dossiers. Pascal Hausser, votre commentaire.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dorothée Schmidt. Moi, je trouve que les Turcs ont retrouvé une place de nation indispensable dans l'OTAN. Ils en jouent avec beaucoup d'intelligence. Erdogan est vraiment... À la fois, il fait un chantage assez explicite, mais en même temps, il arrive à se présenter comme le sauveur et le médiateur, celui qui est par qui à la fois l'OTAN va retrouver son efficacité vis-à-vis de la Russie et sans lequel rien ne peut se faire. Il se met en posture de pouvoir même être un promoteur de la paix du sauvetage de la famine africaine. Donc moi je trouve que Erdogan a vraiment montré son talent, ça fait plusieurs années qu'il nous fait sa démonstration, que ce deal est une bonne affaire pour la Turquie. Maintenant il reste à savoir quelles ont été les concessions secrètes, notamment vis-à-vis de la Syrie. Et puis j'observe, pour revenir sur l'affaire des avions, puisque c'est vrai que c'est un sujet majeur pour la Turquie qui se sent en vulnérabilité, ou en tout cas qui est en opposition dans le domaine aérien avec la Grèce en mer Égée, Les F-16 modernisés vont-ils véritablement être fournis et ne pas être bloqués par le Congrès américain? J'observe également qu'on commence à reparler de l'Eurofighter. Les Britanniques auraient fait des propositions de ce côté-là également, ce qui serait une très bonne nouvelle pour l'armée de l'air turque. Donc d'une manière générale, je trouve que cet accord, il est plutôt favorable à la Turquie.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, beaucoup d'intérêts défendus. Jean-Marc, vous posiez tout à l'heure la question des conditions et peut-être, qu'est-ce que les Américains ont accordé à la Turquie. Alors, la question des avions, c'est une chose. Pascal Hausser vient de parler de la Syrie. Il y a, de la part d'Ankara, cette menace de lancer une action militaire en Syrie. De leur côté, les États-Unis multiplient les mises en garde contre une opération qui, somme toute, déstabiliserait la région. Quelle est la position turque aujourd'hui, précisément, par rapport à cette question d'intervention en Syrie? Est-ce que c'est, d'une certaine manière, on peut peut-être, non pas le supposer, mais en tout cas, envisager que ce soit du bluff?
Oui, je crois que cette intervention, enfin le débat autour de cette intervention, il est né justement de la question de l'ouverture de l'OTAN à la Suède et la Finlande. Et alors même que la Turquie s'opposait à cette ouverture et à cette adhésion, l'idée de lancer ou de menacer de lancer une intervention était une manière pour la Turquie de donner crédit à sa position et de dire, vous voyez, nous combattons ou nous nous préparons à combattre le terrorisme sur nos frontières, alors qu'on nous demande d'intégrer de nouveaux membres qui, eux, abritent des membres du PKK et protègent implicitement, voire explicitement, le terrorisme. Donc c'est dans ce cadre qu'est née cette nouvelle intervention. Vous savez que depuis plusieurs années, la Turquie, depuis 2016, a mené dans ce secteur de nombreuses interventions. C'est une intervention transfrontalière. Alors, il y a de nombreuses entrées et de nombreux enjeux. Je crois qu'il ne faut pas oublier la Russie dans ce cadre-là, puisque la Russie est concernée directement, parce que toutes les interventions turques qui se sont produites se sont toujours produites avec au moins l'accord tacite de la Russie qui maîtrise l'espace aérien dans ce secteur. Et au départ, les premières réactions de la Russie étaient plutôt défavorables. Et on sait que lorsque Sergueï Lavrov est venu à Ankara le 8 juin, pour d'ailleurs négocier autre chose, c'était commencer à négocier cette histoire de couloir ferroviaire en mer Noire, bien évidemment, l'un des sujets sur la table, c'était aussi cette intervention et que la Russie aurait plus ou moins accepté une intervention limitée. L'autre acteur qui est impliqué dans cette affaire, qui concerne d'ailleurs la Russie et ses relations avec cet acteur, c'est l'Iran, qui est traditionnellement opposé aux interventions de la Turquie. Mais on a vu récemment que les Iraniens ont fait une déclaration ambiguë expliquant qu'ils comprenaient les problèmes de sécurité de la Turquie sans pour autant ouvertement accepter une intervention. Donc je pense que on ne sait pas si cette intervention aura lieu, bien sûr, mais ça risque d'être une intervention de même nature que les autres. C'est une intervention transfrontalière destinée à conforter la présence de la Turquie dans la zone syrienne, mais en même temps, on n'est pas du tout sûr qu'elle aura lieu, et je pense que même si elle n'a pas lieu, c'est un moyen pour la Turquie d'accréditer sur la place internationale, comme le disait tout à l'heure Dorothée Schmidt, ce problème de terrorisme, de le faire prendre au sérieux, d'autant plus que le sujet a même des entrées intérieures, puisque l'un des sujets principaux en politique intérieure pour les prochaines élections, c'est la question des réfugiés. Et Erdogan explique qu'il est en train de créer les conditions dans le nord de la Syrie pour qu'un maximum de réfugiés reviennent.
Réfugiés syriens qui sont au nombre de 4 millions à peu près. Alors, Jean-Marc Coup parlait de l'Iran, Dorothée Schmidt, c'est vrai que l'Iran crie aussi, évoquant cette possible intervention de la Turquie dans le nord de la Syrie, d'un risque de forte déstabilisation de la région. Alors, peut-être aussi tout de même évoquer la question kurde. Dans tout ça, c'est les Kurdes qui sont sacrifiés sur l'autel des intérêts des grandes puissances, conséquemment à la guerre en Ukraine.
Oui, alors effectivement, comme vient de le dire Jean-Marcou, il y a une dimension interne en Turquie très importante de cette question kurde. Mais pour faire le lien avec le sujet OTAN, c'est vrai qu'on s'est demandé si, comme vous le disiez, il y a un bluff sur la question kurde. Non, c'est une question qui est extrêmement importante pour Erdogan, parce qu'à la fois c'est un sujet de puissance de politique extérieure turque régionale. L'armée turque est aujourd'hui engagée aussi en Irak, contre les Kurdes. Là, on a cette planification d'une nouvelle opération en Syrie, dont on ne sait pas si elle va avoir lieu, parce que pour le moment, Erdogan a dit que c'était suspendu, que c'était plus à l'ordre du jour, probablement, effectivement, à la suite du sommet de l'OTAN. Mais ce qui est différent par rapport aux opérations précédentes, c'est que là, tout le monde lui est tombé sur le dos en disant non, il ne faut pas le faire. C'est vraiment un comportement de rupture qui poserait beaucoup de problèmes, qui fait revenir l'Iran en Syrie, puisque tout de suite, les Iraniens sont venus à la rescousse de Bachar, etc., qui a fait réagir Poutine. Mais c'est vraiment une priorité turque très importante sur le plan international. Juste pour l'anecdote, j'étais à Ankara il y a 3 semaines et j'ai parlé avec au ministère des Affaires étrangères, le département de planification. On m'a dit, ben voilà, pour le sommet de l'OTAN, les 3 priorités, c'est 1, la Russie. La Russie est l'acteur le plus dangereux de la région. Très intéressant d'entendre le ministère dire ça. Deuxième sujet, le PKK. Pas les Kurdes, le PKK, il faut que tout le monde comprenne, le PKK. Troisième sujet, la Chine. Alors, en quoi la Chine, ça intéresse les Turcs? Ça intéresse les Turcs parce que c'est un levier pour discuter avec les États-Unis essentiellement. Et que là, ils ont très bien compris que l'OTAN, c'était un sujet qui redevenait un sujet sous leadership américain, où l'agenda américain, finalement, prévaut. Mais sur les Kurdes en interne, oui, effectivement, on a cette minorité kurde qui n'est pas vraiment une minorité, puisque c'est 10, 12, 15% de la population en Turquie, qui aujourd'hui est le sujet, le point aveugle dans la préparation des élections qui auront lieu l'année prochaine, où tout le monde parle d'une possible alternance. Mais finalement, quand on s'intéresse à la coalition de l'opposition, personne ne traite le sujet kurde et tout le monde dit les Kurdes vont avoir intérêt à voter pour l'opposition, parce que de toute façon, ça se passe tellement mal avec Erdogan que forcément, ils vont voter pour l'opposition. Mais personne ne vient à la rescousse des Kurdes. Et là, on a eu congrès du HDP, du parti pro-kurde en Turquie, qui s'est encore soldé par l'ouverture d'une enquête pour fait de terrorisme, parce qu'il y a eu des slogans pro-Öcalan, donc le leader kurde emprisonné en Turquie, qui ont été prononcés. Donc en fait, la marginalisation, la criminalisation du HDP, de ce parti pro-kurde, elle se poursuit en Turquie. Et la marginalisation du sujet kurde, elle se poursuit aussi en Turquie. Et comment ça marche? Parce qu'Erdogan, il a une alliance avec les ultranationalistes, mais qu'il a réussi à rendre cet agenda nationaliste dominant, pratiquement. C'est-à-dire que même l'opposition est extrêmement mal à l'aise sur ce sujet et n'arrive pas à prendre une position différente.
Alors, je rebondis et je vous passerai la parole, Pascal Hausseur, pour démarrer la deuxième partie de l'émission. Il nous reste 1 minute 30 avant la fin de cette première partie. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Dorothée Schmidt, sur la Turquie, en tout cas votre interlocuteur que vous avez rencontré à Ankara de l'administration turque, qui vous dit que les principaux dangers pour la Turquie, c'est 1, la Russie, 2, les Kurdes et 3, la Chine. Ça me semble tout à fait intéressant. Dans le cadre de cet eurasisme dont on pense qu'il a un écho au sein du gouvernement turc et qui repose donc sur, non pas cette alliance, mais voilà, l'idée que la Turquie aurait tout intérêt à se tourner vers la Russie et la Chine, ce que vous dites là nous en éloigne.
En fait, ces 3 priorités, c'était les priorités que la Turquie comptait présenter à l'OTAN. Donc on peut considérer que c'est aussi une manière de parler aux États-Unis, se présenter comme le pays qui discute avec la Russie, et la Russie, c'est aujourd'hui un danger pour l'OTAN. Et il ne faut pas oublier que Erdogan connaît très très bien Vladimir Poutine, puisqu'il a été en affaire, entre guillemets, avec lui sur beaucoup de théâtres militaires, et qu'il a notamment eu pas mal de problèmes en Syrie avec Poutine, qu'il a embarqué dans des configurations qui étaient intenables pour les Turcs.
Alors on essaiera de comprendre dans la deuxième partie de l'émission précisément quel impact sur la relation entre Ankara et Moscou a cet accord trouvé au sein de l'OTAN. On vous retrouve, Dorothée Schmid, avec Pascal Hausseur qui est avec nous depuis Toulon et Jean Marcoux depuis Grenoble. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur la Turquie, nous retrouvons nos invités en studio. Dorothée Schmid, directrice du programme Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier, d'un chapitre intitulé Ankara et la Russie, une intrigue qui met l'Occident sous pression, paru dans l'ouvrage dirigé par Isabelle Facon, Russie-Turquie, un défi à l'Occident, point d'interrogation aux éditions Passé Composé. Par téléphone depuis Toulon, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, et depuis Grenoble, Jean-Marc Marcou, titulaire de la chaire Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Pascal Hausseur, je sais que vous souhaitiez rajouter quelque chose sur la question syrienne. On est toujours avec cet accord à l'OTAN non-veto de la part de la Turquie à l'intégration de la Suède et de la Finlande. Tout cela s'est fait sur des concessions et des exigences d'Ankara qui étaient assez fortes. On l'a évoqué dans la première partie de l'émission. On a quand même le sentiment que les Kurdes ont été sacrifiés dans tout cela. Et alors, deuxième question que je vous pose d'emblée aussi, qu'est-ce que l'on peut imaginer comme impact sur la relation Ankara-Moscou que cette décision de la Turquie de laisser rentrer la Finlande et la Suède au sein de l'OTAN, Pascal Hausseur ?
Concernant la Syrie, on ne sait pas évidemment ce que Erdogan a en tête en matière d'opération, mais moi, il me semble qu'il s'est mis en mesure de pouvoir intervenir quand il voulait et surtout de la façon dont il voulait. Si demain il faisait une petite opération contre-terrorisme en expliquant qu'il est en réaction face à une menace d'un réseau qu'il aurait démantelé sur son territoire, ça passerait bien parce qu'il a préparé les esprits à cette intervention. Et moi, ce qui me frappe, et ça me fait le lien avec votre deuxième question, c'est que je suis toujours bluffé par la capacité de ce chef d'État à adapter son discours, et à le réadapter d'ailleurs en fonction de l'environnement, et à adapter son discours en fonction de son interlocuteur et des urgences du moment. Quitte à d'ailleurs, pour le dire un peu trivialement, rétro-pédaler si nécessaire pour pouvoir mieux repartir dans la direction qu'il a prévue quelques mois plus tard. Vis-à-vis des Russes, moi, je pense que Erdogan, qui joue un jeu extrêmement compliqué et subtil, puisque c'est un grand écart entre deux plaques tectoniques qui sont en confrontation de plus en plus forte, il a réussi à se rendre aussi indispensable vis-à-vis des Russes qu'il l'est vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas d'autres alliés dans la place que la Turquie pour pouvoir tenter de préserver leur intérêt au maximum en mer Noire, mais pas seulement en mer Noire, bien sûr en Méditerranée, dans le Caucase et dans le grand jeu général. Donc je n'ai pas le sentiment que Poutine puisse avoir l'impression que Erdogan l'a trahi. Je pense au contraire qu'il a l'impression qu'il a tiré au maximum l'élastique, qu'il est revenu au bon moment, qu'il l'a dealé avec suffisamment de contrepartie pour que le jeu ne soit d'abord pas complètement fini, qu'il y ait des possibilités de retour en arrière, de durcissement, et tout ça fait partie d'une partie complexe dans laquelle je pense, c'est toujours cette relation qui est à la fois en compétition et en connivence entre la Russie et la Turquie, il y a une forme de connivence, et il me semble que la posture que Erdogan a prise n'est pas la plus mauvaise vue de Poutine, et compte tenu des éléments évidemment de l'équation des uns et des autres.
Alors, je vais vous proposer de réagir les uns et les autres. Je relève de ce que vient de dire Pascal Hausseur, donc une politique diplomatique très évolutive d'Ankara. C'est une façon diplomatique de dire les choses. Jean-Marc Hou, vous partagez cette idée qu'il n'y a pas de trahison de la part de Erdogan vis-à-vis de Vladimir Poutine et qu'il y a connivence. De toute façon, il y a beaucoup d'ambivalence et depuis longtemps dans la relation entre la Turquie et la Russie, Jean-Marc Hou.
Ben, je relève deux mots qui me paraissent essentiels dans ce qu'a dit Pascal Hausseur, c'est le terme de grand écart et le terme de connivence. Je crois que c'est cette politique qu'a développée la Turquie depuis 2016, notamment, une politique très réaliste, qui consiste effectivement à se maintenir dans l'alliance, et comment, dans l'OTAN, et en même temps à entretenir une relation avec la Russie. Et on pouvait penser que ce petit jeu allait être difficile dans un contexte plus polarisé, créé en particulier par la présidence Biden, mais c'est vrai aussi par la guerre en Ukraine. Eh bien, on s'aperçoit finalement depuis février que la Russie a réussi à maintenir cette politique de grand écart, cette connivence avec la Russie. Et c'est un jeu d'ailleurs qu'elle joue entre les Occidentaux et la Russie, mais aussi plus finement régionalement entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est là où effectivement on parlait de trahison. Est-ce que les partenaires de la Turquie ressentent ça comme une trahison? Non, je pense qu'ils l'intègrent. Je n'en veux pour preuve que l'attitude, par exemple, de l'Ukraine à l'heure actuelle à l'égard de la Russie. Elle aurait toutes les raisons de penser que la Turquie l'a trahie, finalement, parce que la Turquie a développé, par exemple, le gazoduc Turkish Stream avec la Russie. Et je rappelle que ce gazoduc avait pour objectif d'éviter, finalement, l'Ukraine. Donc, elle aurait pu ressentir ça comme une trahison. Récemment, la Turquie a accueilli Sergueï Lavrov pour ouvrir des couloirs céréaliers qui permettent l'exportation de blé douteux, en particulier de blé volé à l'Ukraine. Là encore, elle aurait pu le ressentir comme une trahison. Or, on voit bien que l'Ukraine continue à entretenir ses relations avec la Turquie, que la Turquie donne des drones, même à l'heure actuelle, à l'Ukraine. Donc, en fait, les partenaires de la Turquie intègre tout à fait ce jeu du grand écart, ce jeu de la connivence, et qu'ils l'utilisent, ils le retournent d'une certaine manière à leur profit. Et je pense que ce qui intéresse notamment la Russie, ce n'est pas de gagner la Turquie comme un allié à part entière, de l'intégrer dans ses alliances, c'est au contraire de l'avoir dans l'OTAN pour effectivement le cas échéant, diviser l'OTAN ou faire entendre des points de vue différents dans l'OTAN ou faire avancer ces dossiers. Et de la même manière, quand on regarde comment agissent les Occidentaux aujourd'hui, on voit bien que la Turquie se positionne vis-à-vis des Occidentaux en disant ben, « c'est nous qui pouvons parler effectivement à des gens auxquels vous ne pouvez plus parler ». On l'a vu à l'automne dernier, lorsque la Turquie a tenté de jouer un rôle d'intermédiaire avec les talibans, en disant aux Occidentaux « vous ne pouvez pas leur parler, ben, nous on peut leur parler ». On le voit encore aujourd'hui, dès le début de la crise, la Turquie a expliqué qu'elle ne changeait pas ses relations avec la Russie, notamment qu'elle n'appliquait pas les sanctions, parce qu'il fallait maintenir un lien, et que si elle n'était pas là pour maintenir un lien entre elle, entre la Russie et les Occidentaux, qu'il ferait ?
Effectivement, la Turquie, qui est un des rares pays, Dorothée Schmid, je me tourne vers vous, a parlé à la fois à la Russie et à la fois à l'Ukraine. Alors, il y a beaucoup d'aspects que j'aimerais qu'on aborde. Je les livre en vrac pour que vous ayez, voilà, que vous sachiez comment, dans quelle direction j'aimerais qu'on prenne un petit peu les choses. Alors, la Turquie, un pays qui s'affirme, Dorothée Schmid. On avait parlé d'une diplomatie fébrile, faible. Non, la Turquie qui est un pays qui s'affirme. J'aimerais qu'on parle de la mer Noire assez rapidement aussi. Quelles sont, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les relations entre la Russie et la Turquie autour de cette mer Noire? Et puis, quelques éléments aussi, des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie turque, inflation qui dépasse les 75% annuels et la lire turque qui a perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Dorothée Schmid.
Alors, d'abord, je suis parfaitement d'accord, aussi bien avec Pascal Hausser qu'avec Jean Marcoux, sur le fait que Vladimir Poutine aime beaucoup que Erdogan mette l'OTAN sous pression. Qu'effectivement, depuis le début de la crise syrienne, notamment, le jeu est d'essayer de faire en sorte que la Turquie permette d'enfoncer un coin dans l'OTAN, d'une certaine façon. Donc là, on a très bien compris que c'était un levier pour affaiblir, entre guillemets, le camp occidental. Donc, toute difficulté produite par les Turcs dans l'OTAN, c'est de ses bénéfices, finalement, pour les Russes. Quand Pascal Hausser parle de souplesse, hein, de flexibilité de la diplomatie turque, il y a effectivement un opportunisme qui est extraordinaire, mais cet opportunisme ne serait rien sans ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire la construction quand même d'une base, la consolidation d'une base de puissance turque qui est absolument remarquable, à la fois en termes de moyens diplomatiques. La Turquie, c'est aujourd'hui le 6e réseau diplomatique du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont ouvert des dizaines d'ambassades. C'est des capacités militaires qui ont été mises à l'épreuve du feu avec ces interventions armées hors des frontières, ce qui est tout à fait nouveau pour la Turquie, puisque pendant la guerre froide, elle évitait, sauf à Chypre, assez systématiquement d'envoyer des troupes à l'extérieur.
C'était une capacité économique qui, effectivement, aujourd'hui est un peu en berne, puisqu'on a une crise, mais c'est une crise qui affecte tous les pays émergents. C'est une crise de rattrapage de la Turquie, qui a quand même triplé son PNB par tête sous la Képé. Donc, on vit un moment. Oui, donc on vit un moment d'une conjoncture économique qui est extrêmement difficile, mais finalement, elle est difficile aussi pour tout le monde aujourd'hui. Elle est encore plus difficile pour la Russie, bien sûr. Je voulais juste dire aussi que sur la question de la relation avec la Russie, il faut comprendre que l'objectif des Turcs, là, dans cette crise ukrainienne, c'est une opportunité pour les Turcs, effectivement, de montrer qu'ils sont indispensables à l'Occident et de rééquilibrer la relation avec la Russie. C'est leur obsession, parce qu'ils se sont retrouvés dans un état de quasi-dépendance à la Russie, à la fois économique, puisqu'on sait que la Russie leur fournissait les deux tiers du gaz dont ils ont besoin pour alimenter leur croissance il y a encore 10 ans. Et au cours des dernières années, ils ont tout fait pour réduire cette dépendance au gaz. Donc ça, c'est très important au gaz russe. Hein. C'est très important à noter, parce que l'Europe a suivi une trajectoire inverse. Donc ils ont senti quand même bien le danger de cette dépendance économique à la Russie. On dit beaucoup que la tentative de coup d'État de 2016, c'est Vladimir Poutine qui a prévenu Tayyip Erdogan. En tout cas, la réconciliation, parce qu'ils étaient en état de brouille absolue, elle est intervenue à la suite de ce coup d'État. Donc on a eu un moment où la Turquie était finalement en état de faiblesse et où elle avançait un peu dans ce partenariat avec la Russie. Mais elle veut montrer qu'elle peut jouer sur un pied d'égalité avec la Russie. Et là, aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans l'OTAN. Donc, quand on se demande ce que la Turquie fait dans l'OTAN, si elle veut y rester ou pas, évidemment, sans le parapluie de l'OTAN, la Turquie est un pays qui ne peut pas maintenir cette même volonté de puissance, je dirais, à l'échelle régionale. Même si aujourd'hui, elle se réconcilie avec tous ses voisins, c'est aussi sa grande capacité diplomatique, notamment avec les pays du Golfe.
C'est l'OTAN qui la protège, d'une certaine manière.
Oui.
Pascal Hausser.
Tout à fait d'accord. Erdogan, il est très souple, mais il a une vraie vision. Et je pense qu'elle est partagée d'ailleurs. Il n'est pas le seul homme politique turc à porter cette vision. Et je pense que s'il y avait une alternance, fondamentalement, ces choses ne changeraient pas. Cette vision, elle est marquée par le fait qu'il y a comme analyse une fenêtre d'opportunité avec l'affaiblissement de l'Europe, avec le désengagement américain, avec une désoccidentalisation globale du monde. Il y a une fenêtre d'opportunité pour ces puissances qui étaient considérées comme moyennes et pour qu'elles puissent prendre de leur place au maximum, sachant que cette fenêtre ne va pas durer des décennies et que c'est le moment ou jamais. Donc la Turquie a cette analyse, elle n'est pas la seule, hein. Il y a plein de pays qui jouent leurs cartes, notamment en Méditerranée, au Moyen-Orient. On peut penser aux pays du Golfe qui s'émancipent également beaucoup de la tutelle américaine. Et la crise ukrainienne est une opportunité pour la Russie de jouer cette carte et d'affermir encore son rôle, son poids et de défendre ses intérêts. D'où d'ailleurs la question kurde qui, à mon avis, est importante. Évidemment, c'est même prioritaire pour eux. Et donc, il n'est pas du tout impossible qu'ils profitent de cette opportunité pour mettre un pion de plus, pour faire baisser la tête à l'opposition kurde. Et donc, moi, je pense que la Syrie, c'est une option qui est tout à fait envisageable. Mais il y a aussi Chypre du Nord, qui pourrait être annexée très facilement un matin. Alors bon, là, politiquement, l'affichage serait moins facile parce que la résonance avec ce qui se passe en Ukraine rendrait la chose plus compliquée à vendre. Mais il y a aussi la mer Égée. On sent bien qu'il y a des préoccupations là qui sont des préoccupations de longue date pour les Turcs et qui pourraient défendre. Un point sur l'économie qui montre une fois de plus, qui illustre ce qu'on vient de dire, l'amitié, en tout cas le rapprochement très spectaculaire quand même de la Turquie avec les Émirats d'abord, puis maintenant de la Turquie avec l'Arabie Saoudite de l'autre. Il faut voir que c'était quand même des ennemis extrêmement forts depuis 10 ans, depuis la révolution, les révolutions arabes et le soutien aux frères musulmans très affiché de l'AKP. Ce rapprochement, je pense à une connotation politique dans le cadre de ce que je viens d'évoquer, sur une espèce de chacun joue sa carte pour se positionner au mieux dans cet affaiblissement occidental généralisé. Et en même temps, il y a une grosse connotation économique. Et là, on sent bien qu'il y a des nouveaux liens qui se créent. Qui vont certainement, à mon avis, pouvoir se structurer dans les années qui viennent.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, on l'a dit, Turquie, un pays qui s'affirme, qui se veut une puissance pivot au Moyen-Orient et avec ce désir de conquérir une place reconnue dans le jeu diplomatique international. Ce que j'entends de ce que vient de dire Pascal Hausser, Jean Marcoux, c'est tout de même des risques d'une certaine forme de fuite en avant de la part de la Turquie, évoquant Pascal Hausser, la question de Chypre, la mer Égée, et puis la Syrie dont nous avons parlé dans la première partie de l'émission, Jean-Marc Coux.
Oui, ben, effectivement, il y a le dossier égéen et de la Méditerranée orientale a été un petit peu, je dirais, supplanté par la guerre en Ukraine, mais il est toujours présent et puis il se déroule dans la même ère géographique et géopolitique. Donc, il est toujours là et on voit que la position turque s'est considérablement durcie sur Chypre, puisque les Occidentaux continuent à parler de négociations pour la réunification de l'île, alors même que chaque fois que cette question est sur le tapis, la Turquie et bien évidemment les autorités de la République turque de Chypre du Nord rappellent que désormais, ils n'accepteront qu'une négociation entre deux États égaux, souverains, indépendants. Donc là, je crois que la Turquie n'a même pas besoin de prendre possession, je dirais, de Chypre, puisque d'une certaine manière, elle y est. En plus, le gouvernement actuel de Chypre du Nord est beaucoup plus proche que les gouvernements précédents, et que de surcroît, il y a une sorte de position sur la solution à deux États qui est littéralement imposée et qui est littéralement posée comme une donnée acquise, si vous voulez. Donc dans ce cadre-là, effectivement, la Turquie est dans une position qui reste malgré tout très offensive, même si par rapport à 2020, il y a eu une sorte de désescalade. Avec les pays du Golfe, effectivement, il y a une relation qui est en train d'essayer de se nouer, comme d'ailleurs avec leur allié égyptien. On a vu ces visites bilatérales de Recep Tayyip Erdogan et des princes héritiers du Golfe à Istanbul, ces échanges de personnalités. Donc on voit bien les implications économiques de ces visites. On voit aussi les implications géopolitiques. Recep Tayyip Erdogan, malgré les tensions, a toujours rêvé d'avoir des bonnes relations avec les pays du Golfe, en particulier avec l'Arabie Saoudite.
Oui, je vous interromps, oui. Jean, parce que le temps tourne. Effectivement, l'Arabie Saoudite, et je vais proposer à Dorothée Schmidt de conclure, mais pas seulement sur la question des pays du Golfe. L'affaire Khashoggi, elle est effacée, et une relation avec Israël, voilà, une réconciliation à petits pas. Dorothée Schmidt, s'il fallait conclure sur cette émission sur la Turquie dans le contexte de la guerre en Ukraine et donc de la signature de l'accord au sein de l'OTAN sur la place de la Turquie et sa relation avec la Russie.
Je voudrais revenir une seconde sur ce que vous avez mentionné en introduction sur le changement de nom de la Turquie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un moment, après la construction de capacités, le redéploiement de la diplomatie turque, on est dans un moment de reconquête de l'image de la Turquie et d'imposition de l'image de la Turquie. Donc le changement de nom vers Turquie, donc l'imposition du nom turc fait partie de ça. Mais vous savez que même en mer Égée, les Turcs viennent de faire reconnaître la marque turque Egean pour promouvoir le tourisme sur la mer Égée en Turquie. Et ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes politiques, psychologiques aux Grecs, évidemment. Et cette marque, elle a été acceptée par l'Union européenne. Donc on est vraiment dans un moment d'imposition d'un récit turc de puissance aussi.
Parce que la traduction de la Turquie en anglais, Turkey, veut dire aussi une dinde. Oui. Et ça ne plaisait pas au président Erdogan.
Ce qui prouve que c'est les États-Unis, là. La cible principale et l'interlocuteur qui compte.
Merci Dorothée Schmidt. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier et d'un chapitre intitulé Ankara et la Russie, une intrigue qui met l'Occident sous pression, paru dans l'ouvrage dirigé par Isabelle Facon, Russie-Turquie, un défi à l'Occident, point d'interrogation, aux éditions Passé Composé. Merci aussi à l'amiral Pascal Hausser qui était avec nous par téléphone depuis Toulon, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques et depuis Grenoble, Jean-Marc Coux, titulaire de la chaire Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À demain.